Bonjour à tous. Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Sarsenbaï. Et je l'ai choisi parce que c'est un conte qui est rapporté et commenté par un certain Henri Gougaud, dont peut-être certains qui sont dans le monde des contes ont entendu parler. C'était un grand conteur et un grand collecteur de contes, et il vient tout juste de nous quitter lundi 6 mai. Donc c'est un peu aussi un hommage à Henri Gougaud. Et puis par ailleurs, j'aime bien cette histoire parce que elle nous invite à réfléchir sur la façon dont on dirige notre embarcation dans notre vie, à la fois dans les bons et les moins bons moments. Et comme aujourd'hui, c'est un jour pluvieux et un peu maussade, eh bien, cette circonstance. Donc, le conte nous vient du pays des steppes. N'hésitez pas à l'aborder en mettant de côté votre raison raisonnante, nous dit Henri Gougaud. Écoutez-le plutôt comme un ami qui vous parle. L'essentiel, en réalité, c'est que le conte ouvre des portes dans les murs de chacun. Voilà donc l'histoire. Il était une fois un berger du nom de Sarsenbaï qui gardait le troupeau du seigneur du village depuis des années. Et en réalité, il avait à peine de quoi subsister, et il n'avait aucun bien en propre. Et puis voilà qu'une année, son maître lui a promis, disons-le en langage moderne, une prime en quelque sorte, pour le remercier de ses bons et loyaux services depuis toutes ces années. Et effectivement, il lui a donné une brebis. Mais la brebis qu'il a choisie parmi toutes les bêtes saines du troupeau, c'était la seule et unique brebis boiteuse. Alors je sais pas vous, hein, mais moi franchement, j'aurais trouvé ça plus que moyen, et je me demande même si j'aurais accepté le cadeau. Mais Sarsenbaï, lui, ma foi, boiteuse ou pas, il a accepté la brebis et même il en a été bien content. Et puis, un jour, alors qu'il faisait paître tranquillement son troupeau, il voit surgir devant lui un loup, mais un loup réellement affamé. J'ai faim! Hurle-t-il, il faut que je mange, donne-moi un mouton, sinon c'est toi que je tue. Eh bien, dis donc, dit Sarsenbaï, on peut dire que tu ne me laisses pas vraiment le choix, toi, hein? Et donc, en bonne justice, eh bien, tu ne dois pas l'avoir non plus le choix. Alors, ferme les yeux et prends une bête au hasard. Et illico, le loup ferme les yeux et bondit sur le troupeau, la gueule ouverte, pour tomber, je vous le donne en mille, sur le dos de la brebis boiteuse qu'il a dévorée à pleines dents. Alors, quand Sarsenbaï a vu ça, il s'est senti, mais mal, démuni, comme il ne s'était jamais senti de sa vie. Alors le loup, ma foi, beau seigneur, lui a abandonné la peau en lui disant « Tu en tireras bien quelques sous. » Et Sarsenbaï est resté là quelques minutes, pantois, complètement bouleversé. Et puis, du fond de lui-même, il a décidé de tout quitter et de partir à l'aventure, la peau de bique sous le bras. Et c'est ainsi qu'il est parti à la grande ville et a vendu sa peau de bique pour 3 sous, ce qui à l'époque n'était pas si mal. Mais qu'a-t-il fait de ces 3 sous? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à sa place? Peut-être en garder, en mettre de côté une partie et le faire fructifier, non, ce que l'on appelle investir son argent. Mais cette notion-là d'épargne et d'investissement, ça, Sarsenbaï, il n'en avait pas la moindre idée. Alors lui, le premier sou, il l'a donné à un mendiant qui était là au bord du chemin, un drôle de type, ma foi, qui a regardé la pièce que lui donnait Sarsenbaï, et puis il lui a dit « Mais c'est que tu me donnes beaucoup, hein ? Alors moi aussi, je vais te donner beaucoup. » Et il s'est levé, et il a été ramassé par terre une bonne poignée de terre brune, et il l'a donnée à Sarsenbaï. Étrange, non? Vous et moi, bon, sûrement que nous aurions trouvé cet homme un peu inquiétant. Alors, nous nous serions sans doute détournés de lui le plus habilement possible, ou alors nous aurions pris cette poignée de terre et nous l'aurions jetée un peu plus loin avant de chercher une fontaine où nous laver les mains. Mais Sarsenbaï, lui, cette poignée de terre, il l'a acceptée poliment et puis il l'a fourrée dans sa poche en disant « Merci bien ». Et puis il a continué sa route et avec son deuxième sou, il a décidé de s'offrir une petite soupe et puis une bonne petite auberge. Où passer la nuit, il faut savoir se faire plaisir, quand même, s'est-il dit. Et voilà que le lendemain matin, au petit déjeuner dans cette auberge, Sarsenbaï entend à côté de lui un marchand raconter en riant le beau rêve qu'il a visité dans la nuit. Et Sarsenbaï, il en est, mais ébloui. Alors il a une espèce d'élan, il se précipite vers cet homme et il lui dit « Ton rêve là, ton rêve, j'adore, hein, j'adore. Tiens, je n'ai qu'un sou, mais je te le donne. Il me plaît trop, je te l'achète, ton rêve. » Et l'autre, ma foi, eh bien il a accepté, hein. Un sou c'est un sou quand même. Et donc, si vous m'avez bien suivi, ce dont je ne doute pas, eh bien, quand Sarsenbaï a quitté l'auberge, eh bien, il n'avait plus dans ses poches que un peu de terre et il n'emportait sous ses cheveux qu'un rêve. Ses poches étaient vides pour le reste, mais en réalité, vraiment, il était, mais tout content. Oui, il était vraiment profondément content parce qu'il avait fait ce que son cœur lui avait dicté. Et il se sentait, vous savez, comme on peut se sentir parfois particulièrement joyeux quand on se sent accordé. Comment dire, accordé à une lumineuse musique dont il captait l'écho en lui-même. Et il se sentait même désencombré de lui-même. Et donc, tout léger, Sarsenbaï s'en fut sur les chemins du monde, tout curieux de la vie qui se déployait autour de lui. Alors il cherchait là du travail, là un lit pour dormir. Mais c'est à ce moment-là que la dureté de la vie l'a rejoint. Les astres ne lui ont pas été très favorables, personne ne voulait de lui. Or, l'hiver approchait. Et voilà qu'une nuit, il s'est retrouvé, seul, perdu, loin des villages. Et il était épuisé. Et il grelottait. Tous ses os étaient glacés. Et il marchait péniblement contre le vent glacé. Alors à un moment, il s'est arrêté. Et puis il s'est adressé à Dieu et il lui a dit « Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Laissez-moi juste mourir, mon Dieu, et que mon corps nourrisse les bêtes. Et voilà tout. Ça n'est pas si grave. » Et c'est à ce moment-là qu'un loup est sorti de l'ombre. Eh oui, celui-là même, vous savez, qu'il avait nourri de sa brebis boiteuse. Alors ils se sont reconnus, bien sûr. Et le loup a grogné. « Eh bien, dis donc, vieux frère, tu m'as pas l'air bien en forme, là. Allez, grimpe donc sur mon dos. J'ai vu un feu un peu plus loin dans la forêt. » Un feu que des brigands ont allumé. Ils ont levé le camp subitement quand ils m'ont vu. Allez, viens, monte. Tu pourras au moins t'y réchauffer. Et Sarsenbaï ne s'est pas fait prier. Le loup l'a conduit dans le bois et il l'a déposé près du feu. Et puis lui, il s'en est retourné à ses chasses. Et là, Sarsenbaï, tout heureux, s'est endormi pour se réchauffer peu à peu, en quelque sorte se décongeler près du feu. Et voilà qu'au matin, il s'est mis à remuer les cendres tièdes dans l'espoir de faire repartir le feu, de trouver quelques braises. Et voilà qu'il découvre, sous la cendre, un coffret. Et ce coffret, quand il l'ouvre, il déborde de diamants innombrables, un vrai trésor. Et voilà, l'histoire pourrait s'arrêter là, n'est-ce pas ? Ce serait l'histoire d'un homme extrêmement pauvre, qui part à l'aventure et qui devient riche. Mais c'est l'histoire de Sarsenbaï. Et lui, ce trésor-là, ça ne l'émeut pas plus que ça. Alors il fourre le coffret dans son sac. Et puis il décide de poursuivre son chemin et de s'enfoncer dans la forêt. Et là, sur son chemin, il rencontre un jeune faon qui était assailli par une bande de corbeaux. Alors, naturellement, dans un élan, dans un geste spontané, il disperse la nuée noire et il délivre le jeune faon. Et il poursuit sa route. Et un peu plus loin, au milieu de l'allée, il rencontre un cerf majestueux qui lui dit « Mon fils te doit la vie, sois béni, je ne l'oublierai pas. » Et puis, un peu plus loin, Sarsenbaï, qui continue son chemin, rencontre un jeune mouflon qu'il délivre d'un piège. Et puis, plus loin encore, un aiglon empêtré dans un épineux. Et les deux fois, Le père mouflon et le père aigle remercient et bénissent le bienfaiteur. Et Sarsenbaï poursuit son chemin. Il parvient ainsi au bord d'une rivière, en réalité d'un torrent. Et à côté de ce torrent, il y a une triste cabane. Et dans cette cabane, il trouve une belle et pâle jeune fille qui s'appelle Altina. Elle est prisonnière de la sorcière, une ogresse dévorante, jamais rassasiée, qui est momentanément absente. Alors, dans un nouvel élan, Sarsenbaï lui prend la main et il s'enfuit avec elle. Mais la sorcière ressurgit et elle se lance à leur poursuite en brandissant ses griffes de sorcière. Et Sarsenbaï sent qu'elle se rapproche d'eux. Et c'est là qu'il a une idée, mais une idée magique. Le coffret de diamants, se dit-il. Alors, il ouvre son sac et par poignée, il jette ses milliers de soleils au nez de la sorcière. Et oui, elle en est si bouleversée qu'elle en oublie un instant ses proies. Et donc, nos jeunes fugitifs continuent de s'enfuir. Mais la sorcière reprend ses esprits bien rapidement et à nouveau, elle les poursuit de plus belle de sa nature brute et ravageuse de sorcière. Alors là, mes amis, c'est la vie avec un grand V, qui vient à leur aide. Un cerf s'en vient à leur secours et les emporte hors de sa portée. Et puis, c'est un mouflon et un aigle qui prennent le relais. Et cette fois, ils s'envolent sur les ailes de l'aigle. Elle a la bonne nouvelle. C'est que quand on s'envole sur les ailes d'un aigle, eh bien, on est définitivement hors du pouvoir de toute sorcière. Alors voilà nos deux vivants sauvés, bientôt déposés par l'aigle au bord du village, au bord d'un village. Et là, on va le faire rapide. Survient l'heureux dénouement. Ils s'épousent, ils ont un enfant, ils sont pauvres, mais ils sont heureux. Et l'histoire, à nouveau, pourrait s'arrêter là, n'est-ce pas? Ce serait l'histoire d'un homme et d'une femme qui ont accompli tout un chemin de transformation et qui sont désormais épanouis. Mais non, l'histoire ne s'arrête pas là parce que c'est l'histoire de Sarsenbaï. Et un jour, Sarsenbaï repose sous un arbre dans son jardin. Et voilà que son fils grimpe sur sa poitrine et sa femme se penche sur lui avec un grand sourire. Alors d'un coup, lui revient le rêve, vous savez, le rêve qu'il avait acheté jadis pour un sou à cet homme qui racontait son rêve dans l'auberge. Eh bien, le rêve, il est là, au soleil d'été, exactement réalisé. Alors lui revient aussi un autre souvenir, le mendiant et la poignée de terre brune qu'il lui avait donnée. Et cette poignée de terre, elle est toujours dans la poche de sa veste, et sa veste, elle est juste au-dessus de lui, suspendue par le col dans l'arbre. Alors il tend le bras, il s'emplit le poing de cette vieille terre brune et il la jette au vent alentour. Et c'est alors que sur la steppe, de chaque grain naît un animal. Les voisins accourent éblouis et s'exclament : mais à quel seigneur sont ces troupeaux innombrables et magnifiques ? Et Sarsenbaï leur répond : ils sont à moi, enfin, ils sont à nous, ces beautés infinies. Et l'histoire de conclure. Puissance du rêve. Puissance du désir, quand il est accordé à la musique du cœur du monde. À ceux qui l'entendent et qui la jouent, la jouissance de la terre et la fécondité des troupeaux. Les diamants, soleil illusoire, pouvoir jamais rassasié. Goût du bonheur d'être et désir d'avoir ne coulent pas de la même source. Alors, appliquez-vous donc à écouter le souffle du vent dans les arbres, le sommeil des cailloux, ce que dit le regard des bêtes, et peut-être entendrez-vous battre vous aussi un jour en vous-même le cœur du monde. Et voilà. C'était toute l'histoire de Sarsenbaï. Donc moi, j'aime beaucoup, c'est vrai que j'aime beaucoup le personnage de Sarsenbaï. Je le trouve particulièrement sage, en réalité. Il vit quelque chose de difficile au moment où il est perturbé par cette brebis qui était à lui et qui est dévorée par le loup. Et en fait, eh bien, c'est l'occasion pour lui de prendre un tournant dans sa vie. Et il est royalement détaché des valeurs de l'argent. Et il sait, comment dire, se mettre au diapason de quelque chose de plus élevé. Il a un rêve qui le porte et comme il dit, il se sent accordé à la musique du cœur du monde. En réalité, il n'a pas peur de mourir, puisque quand il est en difficulté, eh bien, il envisage de terminer sa vie sans que ce soit un drame, et c'est là où surgit un nouvel épisode. Et là, il va rencontrer Altina, qui sûrement représente, je ne sais pas, comme une part de lui-même. Il me fait penser à, oui, au symbole d'une âme, peut-être, qui serait enfermée dans les griffes de la sorcière, qui représente l'enfermement du monde. Et en fait, ils vont réussir tous les deux à se dégager de tout ça, juste en suivant leur intuition et leur élan spontané. Alors je pense que voilà, peut-être que ça peut nous inspirer nous-mêmes à faire confiance à notre intuition ou en tout cas à une dimension qui va au-delà de la dimension mentale, à une dimension qui est peut-être la seule dimension réellement importante dans la vie. Donc bonne route à tout le monde et à moi aussi. Et suite au prochain épisode.